Donc, agrégé de musicologie. Et une des particularités de son travail, c'est vraiment, à ma connaissance, le premier chercheur qui a d'abord séparé le sampling du côté intertextuel, parce qu'on a l'habitude de dire le sampling met la musique en intertextualité, etc. Et Maxence Déon s'inscrit un petit peu à contre-courant de cette position, et puis surtout avoir posé que le sampling était non seulement un processus de fabrication du son original, mais en plus un processus de fabrication qui ne peut être fait par aucun autre moyen. C'est-à-dire qu'il y a un rapport spécifique à la sonorité. Mais il vous expliquera ça.
This is a journey into sound.
Ça fonctionne. Cet échantillon est bon, très bon, mais pas assez bon pour chill. Il faut tout recommencer, refuser, exiger, sélectionner, choisir, jusqu'à trouver le sample juste.
Trouver le sample juste, cela signifie-t-il qu'il y a un cahier des charges à respecter pour l'utilisation de tel sample pour tel morceau? Tout en le laissant sous-entendre, cet insert du groupe IAM ne le précise pas, mais il met en évidence une première chose: IAM n'envisage pas, visiblement, de créer sans le support du sampling. Est-ce pour des raisons pratiques, esthétiques ou extra-musicales, intertextuelles, symboliques? Interrogé par Blondeau et Anak, Keops, producteur du groupe, considère en tout cas que par leur maîtrise du sampling dès la fin des années 80, ils avaient une avance technique sur tout le monde en France, donc pour prétendre faire du rap, il fallait donc maîtriser le sampleur. Joystar a une attitude similaire lorsqu'il se met à produire pour sa copine chanteuse. Son premier geste est d'aller écouter des disques pour y trouver des samples. Pour lui, en amont de la composition, il y a donc recherche de samples. En 1992-93, toujours, les NTM évoquent cette pratique dans différentes chansons, notamment dans un morceau qui s'appelle « Nouvelle attaque terroriste sur 24 pistes » qui peut rappeler l'expression de M. Béthune d'esthétique hors la loi. Et dans ce morceau, il considère que la variété possède un retard musical de 10 ans. Si retard musical ne veut pas dire grand-chose, objectivement il n'est pas retardé d'apprendre un instrument plutôt que le manuel d'une MPC, cette formulation met toutefois en évidence un fossé dû à la façon de concevoir la création musicale. Ce fossé est-il lié à la façon de créer, au sens qu'a le sampling pour ces artistes, ou est-il extra-musical, ou encore esthétique, c'est-à-dire en rapport à la façon dont ça sonne? Le manifeste en chanson qu'est la révolution de NTM balance sans ambiguïté du côté esthétique.
Pour la révolution du son, pas trop de tergiversation, la plus qu'elle rythme, mais par une lourde programmation. Boum, boum, dans les basses et les médiums, clac, clac, poussant mon corps à suivre un mouvement de tic-tac vital, pour éviter l'embolie, la cérébrale, totalement dévouement pour la cause musicale. Je veux m'imprégner de son sens, cette façon à passer.
Total est mon dévouement pour la cause musicale, je veux m'empoigner du son. Donc ça parle de son, jamais de sens. Aucune raison extra-musicale n'est évoquée, mais c'est pourtant ces dernières qui ont été les plus analysées. C'est pourquoi nous commencerons cet exposé par, après quelques rappels historiques, une évocation de ces enjeux extra-musicaux, qui sera très rapide. Nous verrons ensuite les enjeux stylistiques. Peut-on avoir un style personnel quand on pique des sonorités qui ne nous appartiennent pas? Et enfin, nous nous concentrerons sur des enjeux esthétiques pour tenter d'apprécier les sons non plus dans le rapport à leur origine, aspect donc attirant théoriquement mais parfois décevant dans la pratique, car il exclut la musicalité de la démarche musicale et artistique. Donc non plus dans le rapport à leur origine mais dans le rapport entre eux. Et ce ne sera pas rien puisque ça permettra d'envisager le hip-hop comme un genre musical instrumental, possédant ses langages compositionnels propres dont le sampling fera évidemment partie, et considérer ses producteurs comme des compositeurs. Donc pourquoi le sampling? Historiquement, la musique hip-hop est née de la pratique des DJ, donc du détournement des disques pour créer sa propre performance musicale. En passant des platines au studio, le DJ devient producteur et va naturellement chercher dans ses disques les sons qui vont lui servir à produire. Cette pratique, hors la loi encore une fois, d'ailleurs mise à mal par les cadres légaux, du copyright ou du droit d'auteur, aurait pu tendre à disparaître pour s'éviter de tels ennuis, mais il n'en fut rien, et ce pour de nombreuses raisons. Les raisons extra-musicales donc, ont été étudiées. C'est ce qui semble le plus évident. On cite ou on détourne une œuvre pour renvoyer à cette œuvre. Je vais très rapidement là, donc, évoquer trois enjeux qui sont en lien extra-musical, enfin qui sont extra-musicaux. Le sampling a été vu comme un moyen de bruitage, mais en ça, il ne fait que réactiver une pratique qui a toujours existé dans la musique, et notamment les musiques populaires enregistrées. Il y a évidemment l'intertextualité, mais néanmoins, on verra qu'il y a de nombreux cas où l'intertextualité ne se vérifie pas. Ça a pu aussi être analysé comme un moyen de lignage, de créer un lignage artistique en samplant des mentors, par exemple. Donc tout ça, ce sont des renvois externes, et on va commencer avec un premier enjeu, cette fois interne, en ce qui concerne la pratique du sampling même, un renvoi à cette pratique. Et c'est ce que j'ai appelé un enjeu symbolique, notamment le symbole de l'authenticité. Cet enjeu symbolique se rencontre chez Fuzzati, le rappeur du Club des Losers, en tout cas au début de sa carrière. Sa posture artistique semble avoir évolué depuis. Il a ainsi évoqué en interview sa vision personnelle de la musique hip-hop. « Pour moi, c'est cela le hip-hop », dit-il en insistant sur l'utilisation de samples et sur les parties instrumentales. Avec sa situation de blanc versaillais, en décalage avec l'image qu'on se fait d'un musicien hip-hop, il n'était pas question pour Fuzzati de se revendiquer rappeur hardcore. Par sa posture artistique toutefois, il s'affirme comme rappeur authentique. Il produit de la musique hip-hop selon l'art et la manière authentique, selon lui. Il n'est d'ailleurs pas le seul à le penser, car certains producteurs américains interrogés par Joseph Schloss allaient dans ce sens, pour preuve le titre d'un chapitre de son livre « Ça ne sonne pas authentique si ce n'est pas fait avec des samples ». Donc, pour certains, faire du rap à base de samples, c'est être un puriste. Attachons-nous maintenant à l'autre mot important de ce titre, qui est celui du sound, du son. Et parlons enfin de musique. Car si le sampling peut être, aux yeux de certains comme Fuzzati, vu comme une façon d'affirmer une authenticité musicale hip-hop, c'est qu'il possède intrinsèquement un caractère esthétique fort et des possibilités stylistiques importantes. Le choix d'utiliser des samples, des sons d'autres artistes donc, de genre ou d'époque différentes, pourrait être contradictoire avec l'obtention d'un style cohérent. Mais les choix de production sont bien sûr faits dans ce sens, et quand bien même certains albums font appel à différents producteurs, comme Supreme NTM de 1998, il est rare qu'il n'y ait pas une cohérence stylistique certaine. Cela nous pousse donc à admettre qu'il y a un enjeu stylistique dans l'utilisation de samples. Dans cet album, certains traits se dégagent au niveau du choix des samples, qui va être un choix instrumental, ça va de soi, et au niveau de la manipulation de ceux-ci. Des samples, qui seront des choix compositionnels donc. Est-ce qu'on voit bien le tableau ? Oui. Pour ce qui est du choix des samples, ils sont tirés en grande partie de musique afro-américaine, sauf That's My People qui sample Chopin, et C'est arrivé près de chez toi qui sample Richard Clayderman. Quelle que soit leur source, il apparaît évident que les NTM ont eu à cœur d'avoir une cohérence instrumentale basée sur l'utilisation intensive de piano et de cordes, on peut le voir dans les deux premières colonnes, ils sont présents dans quasiment tous les morceaux. Un peu de guitare électrique ici ou là, et plusieurs morceaux où le bruit de surface du vinyle samplé peut s'entendre. Samplé à partir de vinyle étant une pratique authentiquement hip-hop, c'est là une mise en son de l'authenticité de la pratique du groupe, même si les NTM avaient peut-être moins besoin de le clamer que Fuzzati. Concernant l'utilisation qu'ils font de ces samples, ils sont en général découpés en petites unités et conservent rarement leur intégrité sur la longueur. On constate aussi que leur titre ne possède qu'un sample issu d'un même morceau, jamais deux. Ces deux points se vérifieront un peu plus tard dans l'analyse du morceau « C'est arrivé près de chez toi ». Et ces deux points ne se rencontrent pas, par exemple, chez Fuzzati, qui lui a un style très différent dans l'utilisation de samples. Il aime conserver leur intégrité sur des plages assez longues, en général quatre mesures, et utilise presque systématiquement deux samples issus du même morceau pour créer une piste sur deux parties différentes. Donc, des styles se distinguent dans l'utilisation, dans les manipulations que les producteurs vont faire sur leurs samples. Signalons un détail qui est toutefois très important, commun à de nombreux artistes celui-ci, on entend souvent de courtes répétitions des samples. On en a un exemple au début du morceau « Sense and Style » issu de cet album d'NTM.
C'est le nouveau phénoménal, freestyle du visage.
Donc au début, on entend bien qu'il y a une répétition du même son que j'ai donc nommé phrasé sampleur. et qui est quelque chose qui ne peut s'obtenir qu'avec l'utilisation de samples, hein, cette sonorité assez particulière, assez symptomatique. Et là, on a quelque chose qui n'est plus tant un trait stylistique qu'un trait esthétique propre à l'utilisation de samples. Donc il est temps de parler véritablement d'esthétique. Pour le morceau, c'est arrivé près de chez toi. Donc en samplant Richard Clayderman sur ce titre, il paraît peu probable qu'un quelconque lien d'intertextualité de la part des NTM renvoyant à Clayderman puisse être vérifiable. La comparaison des deux images montre qu'on a deux mondes vraiment opposés. Et l'audition des samples le prouvera également. Voici le sample original. Non, celui-ci. Donc tout le caractère un petit peu mielleux du morceau de Clayderman va disparaître au profit d'une sonorité beaucoup plus dure qui va s'expliquer par l'usage de samples. On écoute ce que les NTM en ont fait.
Pas le moment d'abandonner. Au microphone, le bouc dans ma face, plus la pour des scandales. Ma part choix, c'est la ville qui veut ça. Et sincèrement, je le vois. C'est sûr, on est comme ça quand on est pétard. Voulons pas aller là, ça.
Donc la banale cycle des quintes qu'il y avait dans le morceau de Richard Clayderman sonnait évidemment trop kitsch pour les producteurs DJ Spunk et Joystar, qui ne conserveront que le premier accord afin de rester sur une harmonie mineure qui correspondra mieux à la tonalité textuelle du morceau, mais faire une simple boucle sonnait encore un peu trop mielleux et avant tout trop lent. Donc les producteurs vont passer par l'outil transposition de leur machine qui leur permettra d'obtenir à partir du même sample différentes hauteurs, par exemple sur la touche 1, la hauteur originale, la touche 2, un demi-ton au-dessus, etc. Touche 3. On remarque qu'il y a une accélération du sample en même temps. Plus le sample est aigu, plus il est accéléré. La carte Do. Si on est sur la touche 6, sur la touche 13, l'octave. Donc là, avec un son très accéléré, l'octave du sample original. Le tempo que les NTM souhaitaient avoir sera celui-ci, celui de la touche 6. Faire une boucle de deux mesures sonnait encore un petit peu trop mielleux. Une mesure. Ça commence bien, mais il y a toujours cette fin de mesure qui agace. Donc les NTM vont chercher à faire autre chose en se concentrant uniquement sur les trois premiers temps. Ils n'utiliseront que ça pour composer toute leur partie instrumentale. Les trois premiers temps, voilà, donc transposés vers l'aigu. Et ce sera ces trois touches-là, la touche 6, qui sera notre tonique, la touche 1, la hauteur originale qui va faire un balancement très classique entre la tonique du morceau et sa dominante. Même chose pour le sample aigu. Donc on va avoir une harmonie très banale, mais toutefois des conséquences esthétiques qu'il va falloir noter dans l'utilisation de samples. Je vous fais écouter ce que ça donne la partie A, enfin ce qu'on a entendu tout à l'heure, en essayant de faire passer les diapositives en même temps. Donc là, on a entendu le début de la carrure A. Je vous fais entendre la deuxième moitié, qui est un petit peu différente. J'ai essayé de faire apparaître avec les couleurs touche tonique rouge, à l'octave au-dessus, vert, et la dominante en dessous, ce sera le bleu. Je vous joue la deuxième moitié de ce passage. Une petite variante. La carrure B, également un petit peu différente, il n'utilisera que deux touche. On retrouve d'ailleurs le phrasé sampleur avec la répétition sur la fin de ce même sample. Donc le fait d'utiliser que cette courte cellule transposée va avoir de multiples conséquences sur le son et sur le rythme notamment. Signalons premièrement que ce que l'on a entendu là chez NTM n'est pas la composition de Clayderman mais bien celle de Spunk et de Joystar. C'est pas quelque chose qui existait tel quel dans le morceau original. Conséquence sur le son, donc. Les cordes aiguës d'un piano n'auraient pas sonné de cette façon si elle avait été jouée sur un piano acoustique. Ça crée un son beaucoup plus dur qui n'est pas celui d'un véritable piano. Ce son-là ne peut s'obtenir donc que par la transposition d'un sample numérique. De plus, il y a les bruits de surface du disque vinyle samplé, on en parlait tout à l'heure, qui altèrent le son une première fois, la transformation de ce vinyle en sample numérique qui altère le son une seconde fois, et à cela ajoutons des petits clics dus au défaut de l'état du vinyle entendu. On entend un petit clic là, qui va s'entendre aussi à toutes les hauteurs où on entendra le son. Donc ça ajoutera un détail rythmique, en plus d'être un détail sonore, et encore une fois une mise en son de l'authenticité de la pratique des NTM, vu que sampler à partir de vinyle est vu par certains comme quelque chose d'authentique. Ça a aussi des conséquences sur le rythme. Les triolets de croche que l'on voyait tout à l'heure lorsqu'on entend ce son-là ne sont pas de véritables triolets comme un pianiste bien formé les aurait certainement joués. C'est des notes qui sont un petit peu plus rapides en l'occurrence. Et le découpage même du sample influe sur le rendu rythmique puisque, j'ai essayé de vous le faire apparaître à l'image là, le sample commence un peu avant la première note de piano. Ce qui est surpassé ici, c'est un tout petit, c'est 0,044 secondes, donc ça s'entend difficilement à l'oreille, mais un tout petit passage où on voit la charlet. On n'entend bien que le son de charlet, d'ailleurs si on joue ce qui est après, le son de charlet au début n'est pas entendu, donc ça va créer un petit décalage rythmique de ces notes-là, qui va influer sur le rendu rythmique. Voilà, là on voit le sample original avec le moment de vide qui appartient à ce sample, qui va créer ce décalage rythmique des différentes notes de piano par rapport à la partie rythmique de batterie. Donc ça va créer une sensation rythmique un peu différente que celle d'un pianiste qui aurait joué les notes que l'on voyait sur la partition tout à l'heure. Ça va aussi avoir le fait de travailler à partir d'un sample des conséquences formelles. Si le texte fait apparaître sans souci une banale alternance entre refrain et couplet, on constate que cette alternance ne s'entend pas dans la musique. Et M. Jacolo, d'ailleurs, l'avait aussi montré dans un article sur le morceau d'IAM, Je danse le Mia. Les structures sont bien souvent différentes de ce qu'on peut rencontrer dans les musiques populaires. On voit donc qu'il y a six carrures différentes, que la musique qui correspond a priori au refrain B', B' ici se retrouve de temps en temps dans les couplets, donc l'écoute de la piste instrumentale ne nous donne aucun indice qui nous permet de savoir si on va être dans un couplet ou dans un refrain. Pour ce qui est des structures, j'ai distingué quelques structures types au niveau des compositions à partir de samples, les boucles de une ou deux mesures, qui sont évidemment très fréquentes, des boucles de quatre mesures qui se rencontrent aussi, qui ne seront jamais quatre mesures différentes, ça va souvent être ABAC ou ABAB, des choses très classiques qu'on avait déjà dans le funk et dans d'autres musiques qui ont précédé. Une structure peut-être plus symptomatique du hip-hop ou de d'autres genres musicaux qui utilisent le sample, ça va être sur quatre mesures A, 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 B. On va écouter un sample. Mesure A, mesure B, mesure C, ça continue. On va garder que A et B. On va le transposer un peu dans l'aigu parce que c'est un peu lent. On répète A. Phrase et sampleur. On répète à nouveau. On laisse entendre la mesure B. Et on reconnaît évidemment
Foco loco en la calle no saca su coco. Pris dans une jungle sauvage et de liane, tu finis par manier le micro comme une sarbacane. Pris dans une jungle sauvage et de liane, tu finis par manier le micro comme une sarbacane. J'ai grandi dans la fonte, la jungle.
Alors, pour la diapositive suivante, j'avais l'intention de vous faire entendre un exemple de sampling dans les musiques électroniques pour montrer des liens qu'il pouvait y avoir, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard au moment des questions, histoire de ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Avant de conclure, donc, signalons un dernier élément aussi intéressant qui a été théorisé par un chercheur américain nommé Crims, qu'il nomme le hip-hop sublime. Il s'agit de la conséquence de la superposition de samples qui parfois ne seront pas dans la même tonalité, voire pas au même diapason. Les dissonances inhabituelles qui en découlent sont donc propres au sampling. Reprenons un autre exemple de la Clica, encore dans Conçu pour durer, avec le morceau Tu es dans la rue.
Être à son âme, et tu fais que mon âme, les gants rendus et l'âme qui a la même, mon entourage. Seul, je reste seul, seul, je reste seul. Mais nous, toi, restons là seul, en effet, le patache avec de rage.
La superposition de la note de saxophone que l'on entendait, de l'accord de clavier électrique et de la basse, qui sont trois samples différents, est assez hardie car elle fait entendre trois diapasons différents, plus ou moins à la même tonalité, mais qui vont quand même créer des dissonances qu'il aurait été absolument impossible à obtenir avec un groupe de musiciens qui auraient joué ces notes-là en live. Mais la magie opère et le sampleur est comme une colle qui va lier les éléments les plus hétérogènes. Et donc ce saxophone complètement faux par rapport à l'harmonie entendue, c'est une harmonie de mi bémol mineur, le saxophone joue une note qui va être un peu plus proche d'un sol bécard, donc du coup qui serait la tierce majeure de l'harmonie entendue, des choses qu'on n'aurait pas obtenues si un saxophone avait cherché à faire la tierce naturelle de cet album-là. L'album conçu pour durer faisait donc bien entendre déjà dans sa musique toutes les raisons esthétiques qui font que le sampling est lui aussi fait pour durer. On réécoute un autre exemple du même morceau. Dans l'introduction, on va entendre que la mesure pour être transposée en mi bémol va se retrouver à être trop longue et donc pas entendue en entier. Là, on n'entend que l'accord dans l'introduction de clavier électrique qu'on entendait déjà tout à l'heure. La contrebasse n'est pas complète par rapport au sample original. Donc, concluons. Il apparaît que dans l'utilisation de samples, plus un sample est court et déconstruit, plus il va pouvoir se libérer de toute possibilité extra-musicale ou intertextuelle pour s'assumer pleinement comme une unité de composition telle que la note pouvait l'être chez le compositeur au sens traditionnel du mot. Mais cette unité n'est pas pure ou idéale comme la note sur la portée, puisqu'elle est concrète au sens de Pierre Schaeffer, et ainsi parasité par d'infinis détails dont les producteurs tireront finalement profit en assumant cette esthétique hors la loi. Hors la loi au sens propre, on l'avait vu, mais aussi au sens figuré, puisqu'il s'agit d'un langage musical nouveau qui apparaît, se fichant des idiomes compositionnels qui lui ont précédé. N'oublions pas qu'on parle de révolution du son, hein, pour sampler encore une fois les NTM. Le langage du sample possède quelques universels, on l'avait vu par exemple avec les structures AAAB. 3 minutes, oui, je vais y arriver. Ou aussi le phrasé sampleur, qui sont des choses qu'on va retrouver pas seulement dans le hip-hop, mais dans énormément de genres musicaux qui vont également utiliser le sampling. Il va apparaître également quelques styles différents dans l'utilisation du sampling. On avait comparé Fuzati et NTM. D'autres styles vont pouvoir s'analyser également dans le choix des sons, le choix de la manipulation de ces sons, donc des choix stylistiques, mais également esthétiques. Le voyage dans le son, donc Journey into Sound, exprimé de façon si récurrente par le sample que je vous ai fait entendre au début, montre que le sampling est bien un langage qui, outre le sens extra-musical qu'on pourra lui donner, peut s'envisager et s'apprécier de façon purement musicale. La révolution du son prônée par NTM a eu lieu et continue de fournir des musiques surprenantes, bizarres, si ce n'est innovantes, où ne prime que l'intérêt au son et au caractère ludique de jouer et composer avec ces sons. Les esthétiques de la musique hip-hop sont certes éloignées de la musique concrète de Pierre Schaeffer. Néanmoins, le sample peut s'entendre comme un objet sonore au sens schaefferien du terme, donc dans son caractère esthétique, au sens étymologique du mot esthétique, c'est-à-dire à sa façon de sonner, et non à son origine matérielle. Finissons avec un exemple très récent de musique hip-hop qui nous fait bien comprendre pourquoi le sampling reste un choix esthétique encore de nos jours. Dans l'introduction du morceau Junior de Prince Wally et Midsizer, qui date de 2016, avant que n'entre la batterie, on n'a absolument aucun repère rythmique, pas vraiment d'intégrité mélodique, la phrase de saxophone qu'on entendra est coupée en plein élan. On n'a pas de tonalité bien saisissable ou alors une sorte de bitonalité car le sample va être entendu à deux hauteurs, dans deux tons et à deux vitesses différentes, ce qui va créer ce flou rythmique que j'évoquais à l'instant. On écoute ce que ça donne. C'est pas lui. Savoir où on en est rythmiquement dans la mesure. Donc en faisant sans entendre pour son introduction ces samples sans partie rythmique qui nous permet de savoir où on en est dans notre mesure, le producteur semble vouloir nous dire ce n'est pas un saxophone, ce n'est pas un clavier, ce n'est pas Charlie Parker ou John Coltrane, c'est un son dans lequel, par sa transposition et son placement rythmique toujours surprenant, je vous invite à voyager. Merci de m'avoir écouté. Merci.